carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Madame, monsieur, bonjour ou bonsoir selon l'endroit du monde où vous nous écoutez. Merci d'avoir choisi Canal Académie, la radio sur Internet qui donne la parole aux académiciens. Cette émission vous propose de découvrir le thème de la conférence que tiendra dans les jours prochains à Shanghai Marc Fumaroli, membre de l'Académie française et de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. L'Institut de France est présent en effet à l'Exposition universelle de Shanghai 2010 et ceci de deux manières. D'une part, la projection d'un court-métrage et d'autre part, plusieurs rendez-vous de qualité avec quelques-uns de ses illustres membres. 6 académiciens prononceront diverses conférences sur place entre mai et octobre 2010. Monsieur Fumaroli, bonjour.
Bonjour, madame.
Et merci d'être venu jusqu'à notre studio où nous avons grand plaisir à vous accueillir. Dans le pavillon de France, vous évoquerez un thème qui vous est cher, patrimoine et identité nationale. Chacun sait que les concepts d'identité nationale changent selon les époques, mais parmi ces variantes, il en est une qui dépasse les contextes sociaux et historiques, c'est la fidélité à soi-même. La fidélité à soi-même dans la modernité, dites-vous, grâce à la connaissance de notre patrimoine. Le patrimoine, et je vous cite encore, est la principale racine de l'identité nationale et la France doit allumer ou réallumer ses phares, les phares de Baudelaire bien sûr. Monsieur Fumaroli, à quel champ patrimonial pensez-vous et pensez-vous aussi que nous avons des devoirs républicains envers ce patrimoine ?
Alors d'abord, je voudrais souligner le fait que si j'ai choisi ce thème, alors que je m'adresse à un public chinois et non pas un public français qui a été invité récemment par le président de la République à méditer ou à dialoguer sur le thème de l'identité nationale, c'est parce que il me semble, bien que je ne sois pas du tout spécialiste de la Chine, et même loin de là. Malgré tout, j'ai une idée de ce qui s'est passé au XXe siècle, et il me semble que ce qui s'est passé entre autres en Chine, c'est une véritable abrasion de la mémoire philosophique, et peut-être même dans une certaine mesure religieuse, de la Chine classique, et le remplacement de ce trésor légué par les siècles, par une idéologie qui actuellement essaye de se racheter, si j'ose dire, en s'adjoignant une dose capiteuse de capitalisme. Et je pense qu'aujourd'hui, une des grandes tâches de la Chine, c'est probablement de s'aventurer vers l'avenir, avec peut-être un certain nombre d'adoptions de nos principes économiques et financiers, mais malgré tout, en renouant avec ce que le maoïsme a voulu interdire de retrouver ou de revivre. N'oublions pas que ce sont avant tout les professeurs, ce sont avant tout les héritiers des grandes traditions de l'opéra de Pékin, ce sont les collectionneurs d'art traditionnel ou d'art classique qui ont été brutalisés et même assassinés par les gardes rouges. Donc, il me semble que ce traumatisme est un des éléments secrets de la Chine actuelle. C'est pour ça que je voulais leur exposer comment nous autres Européens, mais en particulier nous autres Français, nous avons dans une certaine mesure le même problème, mais dans une certaine mesure aussi, nous avons un certain nombre d'instruments pour éviter qu'ils deviennent traumatiques, comme cela s'est passé en Chine et comme ça s'est passé dans beaucoup d'autres pays du monde lorsque le moment est venu d'accéder pour eux à la modernité. Alors pour en revenir à la France, puisque malgré tout, comme je ne peux tout de même pas faire des leçons d'histoire à des Chinois qui, bien même s'ils ont été en quelque sorte lobotomisés de leur propre mémoire, en savent tout de même beaucoup plus long que moi, je vais donc parler de la France et je vais essayer de leur faire comprendre que nous disposons en France d'un instrument de travail, si j'ose dire, que j'ai toujours beaucoup admiré, que j'ai toujours défendu aussi contre certaines déviations qui pouvaient le faire dériver de sa vocation première, de sa finalité première. ce sont des institutions de mémoire, ce sont des institutions de conservation, ce sont des institutions qu'on pourrait appeler aussi, ou qu'on appelle aussi patrimoniales. Alors, ces institutions, qui sont évidemment liées à l'État, sont apparues au cours du XVIIe siècle. Pendant le ministère du cardinal de Richelieu, celui-ci a eu l'idée, qui a entré dans sa politique européenne, de créer l'Académie française. Elle existe toujours, j'en fais partie. Quelle était la vocation de l'Académie française dans l'esprit du cardinal de Richelieu ? C'était de donner à la langue française le statut d'une langue classique, c'est-à-dire d'une langue qui évolue sans doute, mais lentement, et qui permet aux générations successives de s'entendre. Ce n'était pas le cas au XVIe siècle. Montaigne, par exemple, se plaignait du fait que, d'une génération à l'autre, le français évoluait, français qui n'avait pas de grammaire, qui n'avait pas de véritable réflexion sur ses propres structures, évoluait d'une manière très rapide et d'une génération à l'autre changeait. Et alors, il disait, j'ai écrit en français parce que je voulais m'adresser au public actuel, mais je suis sûr qu'on ne me lira plus dès que cette génération avec moi aura disparu. Il s'est trompé. Mais le cardinal a voulu empêcher que cette crainte d'un Montaigne ait quelque fondement que ce soit, et que donc grâce à l'Académie qui assurait la rédaction d'une grammaire, qui assurait la rédaction d'une rhétorique, qui assurait également une liste de classiques auxquels on pourrait se référer pour vérifier qu'on parle une bonne langue, on se réfère à un bon usage, celui des meilleurs écrivains ou celui des plus doués des locuteurs français. Tout cela a quand même a permis, en effet, aux Français de lire encore aujourd'hui et d'écouter encore aujourd'hui des textes du XVIIe siècle comme s'ils avaient été écrits d'hier. D'autre part, le Rache cardinal, évidemment, n'a pas duré longtemps. Il n'a pas eu le temps de compléter son projet. Mais quelques années plus tard, au seuil du règne de Louis XIV, son ministre, son principal ministre, Colbert, a complété en quelque sorte le système. Il a doté le royaume d'une académie de peinture et sculpture qui avait été fondée, certes, dans l'intervalle, mais enfin qui était encore faible et qu'il a véritablement mis sur pied. Et cette académie, qui était donc recréée, a permis, en quelque sorte, aux arts français de disposer d'un certain nombre de disciplines et en particulier d'une conception de la formation des artistes, peintres, sculpteurs, graveurs, architectes, qui permettent de maintenir également d'une génération à l'autre l'idée d'un style français, qui ne soit pas une copie de l'antique, mais qui ne soit pas non plus une fantaisie renouvelée de génération en génération, qui permette à la nation de reconnaître en quelque sorte ses traits propres dans les monuments dont ces villes s'orneraient. Il a aussi créé une académie d'architecture, d'ailleurs, en isolant un peu l'architecture des autres arts pour lui donner une sorte de prééminence, sachant qu'elle était avant tout la mère de tous les arts et que c'était autour d'elle que les autres travaillaient. Et il a créé également une académie des sciences qui a permis en quelque sorte d'attirer à Paris même des savants étrangers comme l'Italien Cassini et qui ont fait de Paris, avec Londres, une des capitales de la science moderne. Un peu plus tard, sous le règne de Louis XIV, le roi a décidé de créer une nouvelle académie, sur conseil naturellement d'experts qui travaillaient dans son gouvernement, et qui s'est appelée Académie des inscriptions et des belles-lettres, dont je fais partie aussi, qui existe toujours aujourd'hui, et qui est destinée au fond à maintenir et à augmenter le capital de connaissances du lointain passé dont disposait la nation française. Aussi bien la connaissance de l'Antiquité grecque que l'Antiquité romaine, l'Antiquité égyptienne, de l'Antiquité gauloise, et éventuellement également des Antiquités orientales. Et c'est effectivement à travers l'Académie des inscriptions et belles-lettres que l'on a commencé à s'intéresser en France, par exemple à l'étude du sanskrit, à l'étude du chinois classique, du mandarin, et également du japonais. Donc c'était l'ensemble des grandes traditions linguistiques, mais aussi artistiques de l'humanité qui se trouvaient en quelque sorte garanties par un corps de savants, parmi les meilleurs d'Europe, Et donc, au fond, la nation était ainsi dotée de véritables, non seulement d'institutions de mémoire, mais je dirais même d'organes mnémotechniques, d'organes qui étaient chargés de, alors que le temps passe, que les circonstances changent, que les conditions historiques évoluent, et que donc il faut chaque fois s'adapter, répondre à ces défis, il n'en reste pas moins qu'à l'arrière-plan, il y a une sorte de conservatoire, en quelque sorte, dans lesquels on peut puiser, et en particulier dans lesquels on peut puiser cette espèce de distance, cette espèce d'éloignement, cette espèce de recul, en quelque sorte, méditatif, réflexif, qui permet de pas se laisser emporter trop vite et imprudemment
par la modernité,
par ce que l'époque a l'air de demander. Donc de trouver un moyen terme entre les leçons du passé, qui sont en effet des leçons précieuses et qui dictent beaucoup de prudence dans l'action, et puis naturellement la connaissance aussi de la situation nouvelle, qui est toujours nouvelle, que les hommes d'État comme les individus ont à affronter, et là, les affronter avec résolution, mais avec quand même un indice de prudence, avec une audace, mais une audace contrôlée. Donc, si vous voulez, le principe même de ce patrimoine et de ces institutions patrimoniales avait un sens politique. Un sens politique en ce sens qu'il permettait au gouvernement royal, avant de prendre une décision, de consulter ensemble cette espèce de parlement de savants afin de donner à ces décisions un caractère à la fois opportun, répondant à la nécessité urgente du moment, et en même temps une certaine solidité due au fait qu'on avait consulté les précédents, on avait pris soin de ne pas se hasarder à des choses qui précédemment avaient manqué.
C'est un peu dangereux, puisqu'on dépend, même si ce sont de hautes autorités politiques, elles peuvent se tromper. Et on a vu l'exemple à l'époque de Général de Gaulle, d'un ministère de la Culture, qui avait un parti pris, pas forcément à la gloire de notre patrimoine. Donc on est dans la main de ces décideurs.
Oui, mais alors moi je pense que j'ai écrit un livre effectivement pour secouer un peu le ministère de la Culture créé par le général de Gaulle et André Malraux en 1959. Mais j'ai souligné dans ce livre, et c'est, je crois qu'il faut quand même le dire, que ce ministère, malgré tout, regroupait dans son sein une grande partie des institutions que l'ancien régime et ensuite ensuite les trois républiques qui lui avaient succédé avaient soigneusement maintenu. Le ministère de la Culture de Malraux réunissait des organes comme par exemple la direction des monuments français.
C'est la période de ravalement qui était
la direction
bénéfique.
La direction des musées de France, la direction de la musique qui a aussi la responsabilité sur l'opéra et aussi sur les écoles qui forment les musiciens, qui forment les danseurs. Bref, un certain nombre d'institutions qui ont été reprises et qui, mon Dieu, ont continué à fonctionner assez bien. Ce que je reprochais à ce nouveau ministère et ce que je retrouve dangereux dans le mot de culture qui apparaissait pour la première fois dans le langage administratif, c'est que cette dimension conservatrice, qui n'impliquait pas d'abord un conservatisme aveugle, mais un conservatisme intelligent et éclairé, et ces institutions de mémoire risquaient d'être compromises, dévorées lentement ou affaiblies par la volonté de donner à ce ministère comme finalité celle d'amuser le grand public, de s'aventurer sur un terrain qui n'est pas normalement celui de l'État, qui est celui du marché, c'est-à-dire de celui du divertissement collectif, du divertissement de masse. Et à partir du moment où l'État se mêle du divertissement de masse, à ce moment-là, on est presque dans un régime totalitaire. Parce que dans un régime libéral, l'État se charge de ce qui importe, c'est-à-dire ce qui est exemplaire, ce qui est classique, ce qui doit être transmis, si j'ose dire, et puis tout ce qui est divertissement de l'instant, du moment, ou à courte durée, et à succès, eh bien, ça relève du marché, c'est normal. C'est cette distinction, si vous voulez, que j'ai redouté que le nouveau ministère, fabriqué un peu de briques et de broc pour correspondre à la personnalité très singulière, effectivement, d'André Malraux, risquait d'oublier ou risquait même de compromettre. Voilà. Alors, je pense que, même actuellement, les thèses que j'ai défendues à la fin des années 80 restent d'actualité parce que, et il y a toujours, et plus que jamais peut-être, et ça peut intéresser les Chinois parce qu'ils sont toutes choses égales, évidemment, dans une position qui peut leur faire comprendre ce genre de difficulté ou ce genre de questionnement. Est-ce que l'État doit se compromettre trop profondément avec le marché? Le marché a ses lois, il a ses règles, il a sa fonction d'ailleurs, il a sa profonde utilité. En matière de culture, en fait, on pourrait considérer que le marché a la responsabilité de la culture de masse, il a la responsabilité de la culture à succès, il a la responsabilité de ce qui divertit les gens. Enfin, il faut bien que les gens se divertissent. Ils ne peuvent pas être tout le temps en train de méditer. C'est pas leur métier. Ils ont le droit de s'amuser. Bon, ben pour s'amuser, c'est le marché qui s'en occupe. L'État doit plutôt s'occuper de l'éducation, de la réflexion et de tout ce qui, justement, relève de la prudence. Et là, il est dans son rôle, il est le principe de stabilité, hein. L'État, c'est ça, c'est ce qui est, c'est ce qui ne devient pas, c'est ce qui conserve ce qui ne change pas. Eh bien, là, il me semble que le rôle de l'État est très important parce qu'il est lié au grand principe de conservation de mémoire qui est indispensable à l'identité de n'importe quelle nation, de n'importe quelle ville, de n'importe quel groupe, de n'importe quelle famille et peut-être même de n'importe quel individu. Parce que même un individu, au fond, a besoin de la mémoire pour se conduire. Il ne peut pas se contenter de l'examen hâtif ou même approfondi de la situation qu'il a à régler. Il faut aussi qu'il se souvienne de situations antérieures qu'il a traversées, analogues, et qui vont, en quelque sorte, l'aider à choisir la réponse la moins risquée, la moins dangereuse, la moins exposée à l'échec.
Écoutez l'historienne Hélène Carrère d'Encausse raconter Nicolas II, le fils de Nicolas Ier, qui reste associé au printemps de la Russie. Écoutez également Hélène Carrère d'Encausse expliquer l'histoire de l'Académie française en tant que secrétaire perpétuel de cette Académie. Écoutez enfin son discours sous la coupole consacré à Pierre Corneille. Ces émissions sont en libre téléchargement sur canalacademie.com.
Dans votre conférence, est-ce que vous évoquerez, ce n'est plus l'État, ce n'est pas un organisme public, mais c'est peut-être encore plus formateur pour le patrimoine, la République des lettres?
La République des lettres, c'est une question qui ne touche ni à l'État, ni au marché. Hein.
Oui, mais ça peut toucher les Chinois.
J'espère m'instruire à Shanghai. J'espère qu'il y aura un petit débat avec le public, j'espère distingué, qui sera là, en tout cas cultivé. La République des lettres, c'est un phénomène, en fin de compte, d'ancien régime. C'est un phénomène qui a eu beaucoup de mal à survivre à la Révolution française. Donc, ce sont les historiens qui ont étudié la République des Lettres. Ce qu'on appelle aujourd'hui République des Lettres, c'est plutôt une métaphore, hein, ça n'est pas... Tandis que sous l'Ancien Régime, c'était une réalité, c'était une véritable société, non pas secrète d'ailleurs, mais enfin une société cosmopolite, transnationale, transconfessionnelle, de savants, de grands lettrés, d'antiquaires... au sens classique du terme, bien sûr, qui collaboraient, qui échangeaient les correspondances, qui se rencontraient parce qu'ils voyageaient tous beaucoup, qui collectionnaient, qui publiaient, qui, en somme, fournissaient le terreau de ce qu'on a appelé les Lumières.
Mais est-ce que c'est pas ce que vous allez aussi faire, vous, en allant à Shanghai, en faisant une conférence ?
Oui, c'est une affaire entendue. Il faut quand même bien distinguer entre la République des Lettres au sens historique et puis ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la République des Lettres. En fait, là où il y a une véritable communauté de communication et de coopération, c'est dans le monde scientifique. Dans le monde littéraire ou dans le monde des humanités, si vous voulez, c'est beaucoup plus difficile parce que d'abord il y a les barrières de langue, ensuite chaque nation a sa propre expérience, sa propre... Alors qu'il y ait des dialogues souhaitables, que l'on puisse maintenir vivante cet esprit de République des Lettres, d'accord. Mais je ne vois pas très bien aujourd'hui la possibilité de reconstituer ce réseau qui a été si fécond dans l'Ancien Régime, et cela pour toutes sortes de raisons. D'abord parce qu'il y a eu cette rupture entre les deux cultures, la culture scientifique et la culture humaniste. Ensuite parce que, en dépit de la globalisation et des techniques de communication qui permettent en principe à tout le monde de communiquer avec tout le monde, en réalité, plus que jamais, il y a une provincialisation de l'univers. On connaît beaucoup moins aujourd'hui en Europe, pourtant l'Europe est unie, il n'y a plus de guerre en Europe, il n'y a plus de rivalité même, en tout cas de rivalité violente. Il y a des rivalités sourdes, mais pas ouvertes. Mais malgré tout, on sait beaucoup moins actuellement ce qui se passe en Allemagne, du point de vue littéraire, du point de vue philosophique, ou ce qui se passe en Angleterre, ou ce qui se passe en Espagne, qu'on le savait, ne serait-ce que d'entre les deux guerres. Pourquoi ? Je ne peux pas vous en faire une théorie pour l'instant. C'est très trop long, mais c'est un fait. Donc la République des Lettres a été très, très, très arasée, si j'ose dire. Elle a beaucoup diminué en efficacité. Alors moi, je fais ce que je peux, mais je crois que beaucoup de gens aussi le font. On essaye de dialoguer, de rencontrer ces hommes de lettres ou ces humanistes d'autres traditions, mais il n'existe plus cette institution implicite, si vous voulez, qui était, après tout, organisée sur une base privée, sur la bonne volonté et aussi sur la fortune personnelle des différents participants. Les conditions ne sont plus si favorables, voilà que je peux dire. Mais la République des Lettres n'a jamais été liée à l'identité nationale. Au contraire, elle transcendait les identités nationales. Elle transcendait aussi les identités confessionnelles. La République des Lettres comportait des protestants sévères ou des protestants laxistes, des catholiques de toutes sortes. Et Dieu sait si le catholicisme, malgré ses apparences de compacité, est très divers, très, très multiple. Il y a plusieurs ordres religieux. Il y a des jansénistes, il y a des jésuites, il y a des partis pris théologiques différents. Mais la République des Lettres comportait un nombre de catholiques extrêmement divers. Mais aussi par nationalité. Il y avait des Italiens, il y avait des Allemands, il y avait des Hongrois, il y avait des Espagnols qui correspondaient selon leurs affinités et qui réussissaient effectivement à travailler ensemble fructueusement.
C'était une forme d'identité européenne. Mais
c'était une forme d'identité européenne et on peut espérer, étant donné que malgré tout l'Europe s'est agrandie aux États-Unis, elle s'est agrandie à l'Amérique du Sud, on peut espérer que peu à peu cet esprit, si on le maintient, si on le fait connaître aussi, peut séduire les pays, ce qu'on appelle les pays émergents aujourd'hui. L'UNESCO, d'ailleurs, fait ce qu'il peut, peut-être pas autant qu'on le souhaiterait, mais enfin, il fait quand même ce qu'il peut pour donner une sorte de forum à ces différentes entités intellectuelles et spirituelles que sont les innombrables nations d'aujourd'hui.
Donc notre identité nationale plonge ses racines dans le patrimoine artistique, littéraire, spirituel. Et il s'agit...
Mais elle n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que cette identité nationale donne une couleur à tout ce que nous faisons, à tout ce que nous disons. Mais il est bien évident que... Au-delà de l'identité nationale, il y a aussi l'humanité dans son ensemble, le respect que nous avons pour cette communauté immense et d'autre part pour les différents peuples et les différentes nations qui la composent. Et l'idéal, ce serait évidemment d'être à la fois un excellent Français avec une très bonne connaissance de la tradition qui nous a fait Français et puis en même temps d'être en constant dialogue avec nos amis européens d'abord, et puis aussi nos amis du monde entier. Et c'est par là que nous montrerons que la France est généreuse et que l'identité française n'est pas une identité de repli ou une identité de réaction contre toutes sortes de peurs, mais une identité généreuse, une identité, je n'allais pas dire ouverte, parce que j'ai horreur de ce mot dont on abuse, mais je préfère le mot généreux, l'identité généreuse, une identité qui, en fait, est capable de s'oublier elle-même pour comprendre les identités différentes, tout en étant évidemment prudente pour ne pas s'égarer dans une sorte de bienveillance fade et sentimentale.
Donc c'est la qualité de vieille nation que d'avoir de la magnanimité. L'âge, l'expérience donne une compréhension des autres tout en gardant les limites de l'humanité.
Oui, les limites...
De la compréhension.
Oui, vous voulez dire que, en fait, les vieilles nations devraient n'avoir pas peur de leur âge parce que leur âge leur donne quelques avantages sur des nations qui paraissent plus jeunes. Mais en fin de compte, l'âge des nations, c'est très difficile à distinguer. Vous voyez, par exemple, la Chine. On ne peut pas imaginer une nation plus ancienne. Or, la Chine... arrivée au XXIe siècle, est peut-être une des nations les plus dépourvues de passé qu'on puisse imaginer. Les Indiens n'ont jamais eu à couper avec leur passé, même la colonisation anglaise les a...
respectés
leur identité, leurs nombreuses singularités. Tandis que là, les Chinois se sont imposés à eux-mêmes un régime, je dirais presque, d'ablation, en quelque sorte, de leur propre mémoire, sous prétexte d'en faire des avant-gardes de l'humanité communiste et marxiste, qui les rend aujourd'hui, je pense, très anxieux de récupérer ce qu'on les a obligés à renier, et en même temps très anxieux aussi de prendre le train de la modernité, et parfois les deux anxiétés, si j'ose dire, se contredisent, sont très difficiles à concilier. Mais je crois que ce problème, nous le vivons aussi d'une manière moins violente, d'une manière plus atténuée, parce que nous n'avons pas subi une révolution aussi radicale que la révolution chinoise, quoique la guerre de 40 et tout ce qui a suivi ait pu peut-être considérer aussi comme un profond traumatisme de la nation, hein, dont on n'a pas encore évalué toutes les conséquences. Mais enfin, malgré tout, on peut dire que nous bénéficions de conditions d'évolution cruelles, moins exigeantes et moins menaçantes que celles dans lesquelles les Chinois vivent et que les Japonais, parce que je vais après Shanghai, je vais aller à Tokyo voir quelques amis, il est certain que les Japonais ont aussi, eux, connu cette crise à plusieurs reprises et dans des conditions aussi terribles.
Mais ils ont l'art de retrouver leur mémoire.
Ah oui, ça, parce que le Japon est une île. Et donc, elle est relativement... Les Chinois, il y a plusieurs langues en Chine, il y a plusieurs types de populations. C'est la même chose en Europe. Mais le Japon est beaucoup plus compact. Ce qui fait que, malgré les coups terribles qu'ils ont reçus, la fameuse ère Meiji, qui était la rupture avec l'ère Edo, qui avait duré presque 2 siècles et demi.
Oui, qui était une période...
Et qui avait été un grand succès, dans un sens, l'ère Edo.
Oui, l'ère Meiji a été
très brutale. Et puis, tout ça a débouché sur la guerre américano-japonaise de la Seconde Guerre mondiale. Et là aussi, ils ont subi un traumatisme... formidable. Ils ont dû changer de régime, ils ont dû renoncer à toutes sortes de choses qui, dans l'ère Meiji, maintenaient quand même une certaine continuité avec le passé. Et malgré tout, on voit qu'ils ont maintenu aussi, à leur façon, des institutions de mémoire et une fidélité à eux-mêmes à un niveau qui ne les paralyse pas pour être des acteurs très vivants, très...
dans la mondialisation.
Très compétitifs, si j'ose dire. Dans la mondialisation.
Mais ils ont leur jardin secret.
Ah ben je ne sais pas s'il est secret, il n'est pas si secret que ça, mais en tout cas il est présent. Quand on est au Japon, on ne tarde pas à en découvrir l'importance et le prix que les Japonais lui attribuent.
Je voulais dire jardin secret parce que c'était une métaphore pour parler de leur goût du silence, de leur goût de la contemplation qu'ils pouvaient mener en même temps que le rythme effréné du 21e siècle.
Oui, oui, c'est vrai. Mais il faut bien reconnaître que ce sont des ressources naturelles d'abord, préserver le divin en quelque sorte dans une nature qui ne soit pas livrée à l'industrie humaine, et puis aussi maintenir les traditions religieuses, aussi bien celles de la religion polythéiste locale que celles du bouddhisme importé de l'Inde. Tout cela, il reste quand même très présent à l'arrière-plan comme une sorte de ressource. Et d'autre part, les Japonais ont un culte qui, lui, n'a rien d'idéologique, mais un culte pour la vieillesse. Il y a un grand respect pour les vieillards. On me dit même que dans certaines entreprises importantissimes, comme Mitsubishi, au sommet de l'immeuble principal de l'entreprise, on a installé le vieillard qui a dirigé l'entreprise deux ou trois générations plus tôt, et qui est évidemment très affaibli. Mais quand il s'agit d'une décision
importante, c'est la mémoire vivante.
On va le consulter pour qu'il donne son avis de prudence vivante, si vous voulez. Et ça, je trouve ça admirable. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas imaginer, mais que nous pouvons au moins souhaiter retrouver dans certaines de nos circonstances.
Oui, eh bien, espérons que la France garde ses phares de tous les âges dans le domaine des arts et de la culture. Et merci, Monsieur Fumaroli.
Merci.
Et bon voyage.
J'espère.